Salut Daniel, c'est Olivier de Morlion-le-Haut dans la France d'en bas. Alors voilà, je voulais dire que chaque jour c'est un peu plus évident. Notre bon président est un homme de paix, totalement désintéressé à l'envergure gaullienne et au courage, etc., etc., etc. Donc je pense que la France se doit de transférer immédiatement ses cendres au Panthéon.
J'ai bientôt 63 ans. Mon père a été blessé en juin 1940, puis fait prisonnier comme beaucoup de Français trahis. Il nous disait sa grande peine lorsqu'il a vu arriver après juin 41 des bataillons entiers de prisonniers soviétiques traités comme des chiens par les soldats allemands, affamés, frappés. Aussi, en mars 43, quand ils ont appris la victoire de Stalingrad, ils ont commencé à se dire que le malheur ne durerait pas éternellement. Un coin de ciel bleu dans le ciel noir de cette affreuse période. Un espoir enfin d'abattre la barbarie nazie. Car il ne faudrait pas l'oublier cette barbarie nazie. Et ne pas oublier surtout le courage et les sacrifices de ces millions de soviétiques sans qui la victoire aurait été impossible. Une autre chose. Mon père était prisonnier dans un village et un jour un Allemand de l'organisation Todt, qui rentrait du RSS et avec qui il parlait, s'est mis à pleurer et lui a dit « J'ai honte d'être Allemand. Tout ce qui se passait à l'Est le révulsait. » En ces temps où de joyeux chefs d'État s'apprêtent à tuer des innocents et à nous entraîner dans un conflit dont les effets ne se mesurent pas, il est bon de rappeler ces périodes noires.
J'ai suivi toutes les émissions. Là, aujourd'hui, c'était encore plus intéressant avec M. Lévin. Ce qui m'a beaucoup intéressé dans une des émissions, c'était les goulags. Je me souviens qu'à 15 ans, j'avais lu une journée d'Ivan Denisovitch d'Alexandre Solzhenitsyn. Ça m'avait vraiment touché. Et on n'en a pas beaucoup parlé, parce que ça aussi, c'est l'histoire par le bas, quoi. C'est une journée d'un gars qui est dans un goulag. Et c'est vraiment le quotidien de ce qu'ont vécu ces gens-là, quoi. Hein, voilà, je voulais dire ça. Salut.
Marcel Mathieu, Angers, 92 ans. Le 10 décembre 1928, jour de mes 18 ans, j'écris sur un carnet, un journaliste anglais, James Nobody, nous dévoile les dessous de la révolution russe, la toute puissance de la Tchéka, les atrocités dans les caves de la Loubianka. Trotsky, Lénine, vous avez massacré des innocents, assoiffé de haine. Donc, en 1928, on savait la vérité sur le paradis soviétique. Comment comprendre que cette image d'un monde idéal entièrement faux ait survécu si longtemps et que tant de gens l'aient accepté?
Voilà une question, Marcel Mathieu, 92 ans, qui tient toujours son carnet. Tout chaque jour, Marcel, vous vous souvenez, on avait fait un reportage, Cléotère avait fait un reportage avec Marcel Mathieu, qui chaque jour, dans son carnet, dans son journal, écrit ses impressions, ses analyses, etc. Et voilà ce qu'il figure dans son carnet au 10 décembre 1928, des messages sur le répondeur de la base, si j'y suis. Mais là, on a le temps aujourd'hui parce que c'est la dernière de ce là-bas au pays des soviets. Ça va être une heure avec des chansons qu'on a glanées au cours du chemin. Et donc, ça nous laisse un petit peu de temps pour respirer et pour évoquer une lettre superbe que j'ai reçue de Monique. On parle pas assez des lettres parce qu'évidemment il y a des lettres nombreuses, il y a pas qu'Internet, il y a encore des gens qui écrivent des lettres à la main, mais oui, ça existe et heureusement. Et Monique veut réagir, elle a voulu réagir sur les 2 heures que nous avons consacrées à comment en 1953 fut vécue la mort de Staline en France. Et elle évoque cette époque, elle est née et elle a grandi à Bagnolet. Et elle évoque une lettre, elle a dit « Je ne me relis pas hein. ». Elle habite à Sète, Monique, elle dit « C'est un coup de cœur, je ne me relis pas ». Voilà. Et alors, sans se relire, elle écrit « Bagnolet », donc là où elle a grandi, « Bagnolet et ses milliers de réfugiés ». Je pense que ça se passe en 1950, par là. Ces milliers de réfugiés italiens, espagnols, polonais, albanais, algériens, etc., maisons de bois sur la zone, ruelles grouillantes de gosses sorties des photos de douaneaux, tout ce petit monde cohabitait malgré les insultes, sale rital, polac, espingouin, bico et autres formules, mais quand l'association des anciens élèves de l'école Jules Ferry partait au TNP en métro, c'était un groupe le plus élégant possible, le plus digne, qui partait encadré par une directrice d'école qui consacrait quelques heures par mois à ses gamins, convaincus que le théâtre était aussi fait pour nous. C'est vraiment une évocation de cette très précise de cette époque. Heureux temps, dit-elle, où nous faisions notre communion en robe blanche, coiffée, reine d'un jour, accompagnée de sœurs de noirs vêtues, où nous passions d'une colonie catholique au patronage communiste, sans état d'âme. Nous recevions les enseignements des deux côtés, on pouvait lire Le Figaro et l'Humanité et se faire une opinion. Nous étions sans trop nous rendre compte, formés politiquement. Hélas, un jour, en 1956, les Soviétiques commettent l'irréparable, l'impensable et la divorce totale. Quoi ? Ce que je souhaitais le plus, la liberté pour tous, des jours meilleurs, se résumait à ces monstrueux coups de force. Tout s'effondrait. Que croire ? L'Église, il y avait longtemps que j'avais compris ce qu'elle valait. Le communisme, c'était donc ça. Où étaient passés mes espoirs ? Je garde des souvenirs émus, des rages. L'URSS avait anéanti mes dernières illusions, etc., etc. Et Monique évoque l'entrée des chars soviétiques à Budapest en 1956, qui, pour un certain nombre de gens comme elle, fut une révélation et un drame terrible. Mais elle, c'est une belle lettre parce que elle évoque bien cette époque, comme disait cet auditeur, qu'il faut toujours essayer d'évoquer par le bas, ou du moins ses mémoires, puisqu'il s'agit de mémoires. Je ne sais plus, que l'historien disait que l'histoire c'est froid, c'est une science froide, que la mémoire, et ça c'est de la mémoire, vient réchauffer. Donc aujourd'hui, balade en musique avec les chansons que nous avons récoltées, ramassées le long du chemin. Mais d'abord d'autres messages sur le répondeur de la base où j'y suis. Je rappelle le numéro 01 56 40 37 37.
Suite mais pas encore fin du procès contre Jean-Claude Willem, maire de Seclin près de Lille dans le Nord, jugé hier mercredi 12 mars 2003 devant le tribunal correctionnel de Lille pour avoir appelé au boycott des produits israéliens. J'ai pu assister à ce procès, la salle était comble, beaucoup de personnes ont dû rester dehors, et je souhaite donc vous donner quelques infos. D'abord, le procureur adjoint a demandé la relaxe pour Jean-Claude Willem. Le jugement sera rendu le 26 mars. Ce procès a été aussi dénoncé comme étant un moyen de pression émanant de personnes ou d'associations ne supportant aucune critique de la politique coloniale d'Israël et taxant systématiquement d'antisémites toute personne qui dénonce l'occupation des territoires palestiniens et leur colonisation, avec leur lot de crimes, d'humiliation, de torture exercés par l'armée israélienne à l'encontre des populations palestiniennes. Nous ne devons pas nous laisser intimider par ces recours fréquents aux tribunaux et continuer à nous battre pour un monde qui ne peut pas être basé sur la loi du plus fort. Donc n'oubliez pas, rendez-vous le 26 mars. Merci, salut.
Petite nouvelle de la Côte d'Azur. Aujourd'hui, ça pétille. Le 15 mars, 25 familles au moins vont être expulsées des appartements vides qu'elles avaient squattés à l'OPAC, sans offre de relogement. C'est le printemps. L'aérocar 3 Nice-Côte d'Azur, inauguré en grande pompe par le gratin local, a l'air d'une coquille vide depuis la chute d'Air Libre. Encore une bulle qui explose. Maître Perrin, sénateur et maire de Nice, est condamné à verser 1 euro de dommages et intérêts à la présidente d'ADN, Association pour la démocratie niçoise, pour injure à son égard. Pas assez pour faire la fête. Enfin, champagne. Dans mon jardin, les amandiers ne sont plus en fleurs, mais les bourgeons des pêchers et des pruniers commencent à exploser. À bientôt.
Oui, petit rappel historique. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les alliés qui ont gagné la guerre veulent mettre en place des moyens pour éviter de recommencer le crash de 1929. Et la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, qui est la suite prévisible de ce crash. C'est les accords de Bretton Woods, c'est le FMI, c'est la Banque mondiale, c'est l'ONU. Depuis 1973, le libéralisme a vu dans ses appareils des moyens qui l'empêchaient de faire ce qu'il voulait faire et de gagner autant d'argent qu'il voulait en gagner. Donc c'est la fin des accords de Bretton Woods. C'est le détournement du FMI et de la Banque mondiale pour imposer un libéralisme effréné à tous les pays qui ne sont pas rentrés dedans, et en particulier les pays en voie de développement. Et là, maintenant, on arrive à la phase ultime avec le gouvernement Bush qui veut faire exploser l'ONU en attaquant l'Irak sans son accord. Donc, tous à la manifestation samedi prochain devant la mairie de votre ville pour empêcher cette dernière casse.
Ce qui est important dans les informations propagande souvent diffusées par les médias, ce n'est pas leur valeur informative par rapport au phénomène réel, c'est leur charge émotionnelle. L'information n'importe alors qu'en tant que support et véhicule de cette charge émotionnelle manipulatrice. Le but, masquer et remplacer la réalité par l'image que le manipulateur veut imposer en place de cette réalité.
Je suis une enseignante de lettres du lycée Maine de Biran à Bergerac, lycée de Dordogne, le plus gros lycée de Dordogne. Et nous sommes une académie pilote et ce qui se passe au niveau de l'école est une catastrophe. Nous sommes en grève illimitée depuis le 6 mars. Nous n'avons pas de moyens. Nous sommes en train d'assister au délabrement de notre école. Et nous résistons, mais c'est difficile. Je suis fille d'enseignant. Mes parents ont choisi ce métier par conviction. Je l'ai choisi moi-même parce que c'était le seul métier que je voulais faire et je ne peux pas supporter de voir comment les élèves dans le public vont désormais être traités. Nous n'avons plus de moyens, nous n'avons plus de possibilités de les former correctement et d'éveiller en eux un minimum de sens civique et d'esprit critique. Et je voulais absolument que tout le monde le sache, il faut parler de l'école, c'est là que se construit la nation. Merci.
Selon le Centre français du commerce extérieur, le marché mondial de l'emballage et du conditionnement est estimé à plus de 305 milliards d'euros. Les États-Unis sont les premiers consommateurs d'emballage avec 250 kilos par habitant et par an, alors que la moyenne annuelle mondiale de cette même consommation est de 10 kilos par habitant et par an. 15% de la population consomme près de 3/4 de la production mondiale d'emballage. Ben voilà. C'est pas demain l'été.
Salut Daniel. Quand on ferme une radio ou un journal à travers le monde, ça donne ça.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Aude Merlin, là-bas, au pays des Soviets. Dernière.
Flight number 2, arriving from New York.
Всего конец, и мечта любви разбита. Зачем туманит взор слеза, застилает туман глаза. Лобзань жар погас, и пусты слова и встречи, но все же в сердце рвется вдоль и чего-то жаль. Можно ли забыть радость свидания? Можно ли забыть весенний день, а юный восторг первых признаний и ароматную сирень? Но почему-то сам с собою сердце прокрался холодок, и хмурой осенней порою сломан был нашей любви. Там, где не падает.
интервью по-французски. Преподаватель 40 лет, преподаватель
французский. Elle a enseigné pendant 40 ans le français. Elle aurait dû. Elle aurait dû donner son témoignage.
Je parle français. Un peu. Je 20 лет не разговариваю. Ну ладно.
Она 20 лет не говорит французский.
Споем им давай. А теперь вы знаете, вам споем.
Et vous savez
песни
maintenant, on va vous chanter des chansons.
Из окопов Сталинграда.
On va vous chanter des chansons des tranchées de Stalingrad.
Солдатики.
Des petits soldats.
Между бомбежкой.
Qui?
Между бомбежкой.
Entre deux bombardements.
Перерывы были маленькие.
Il y avait des tout petits répits.
Маленькие перерывы.
Des petites pauses.
Они сочиняли стихи.
Ils composaient des vers.
И пели на мелодии наших советских композиторов.
Ils les mettaient en musique sur la mélodie de nos compositeurs
Сейчас
soviétiques.
Сейчас мы споем.
On va vous les chanter.
Все чаще, короче, года.
Alors, pour essayer de décrire un peu la situation, c'est un petit local tout en longueur, dans un quartier de Volgograd. Un quartier un peu différent des autres parce qu'il y a des grosses maisons en briques assez belles. Et dehors, c'est l'hiver, c'est la neige, c'est des arbres morts. Il y a un ciel un peu rose parce que le jour commence à décliner. Et on est dans ce local. Et alors là, il y a un piano à ma droite, un piano droit. Sur le piano, on est en Russie. Alors, il y a des fleurs rouges, des roses rouges, mais fraîches, évidemment. Un peu de petites fleurs blanches aussi. Et puis alors, sur une petite estrade, avec un petit rideau jaune et vert, avec des fanfreluches bleues, sur la petite estrade, il y a une quinzaine de personnes qui sont des vétérans de la bataille de Stalingrad ou de la Deuxième Guerre mondiale, la Grande Guerre patriotique, comme on l'appelle ici. Et c'est absolument bouleversant, parce qu'ils sont tous faits beaux, les dames se sont fait belles pour nous. Elles ont la plupart des chemisiers blancs, brodés, admirables, hein, brodés avec des jours, avec des revers, avec des petits lacets noirs, etc. C'est très 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 joli, plus leur décoration, parce qu'elles ont toutes, elles sont toutes décorées. Alors c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de médailles à gauche, à droite de la poitrine. Et puis devant, il y en a une qui est tout en noir, celle-là, cette dame-là, qui vient de raconter son histoire, comment elle est allée jusqu'à Berlin, comment elle a écrit sur le Reichstag. En le 8 mai 1945, le 9 mai 1945, nous sommes des combattants de Stalingrad. Et au deuxième plan, derrière, on a tiré une petite estrade pour que les messieurs puissent s'y installer, s'y jucher. Et il y a 2, 4, 6 messieurs. Et c'est à celui qui sera le plus bardé de décoration. Et on va maintenant chanter. Mais je crois que le plus beau, c'est les broderies, hein, des chemisiers des dames. Ça, c'est vachement ancien. Hein. T'as vu cette broderie ici, c'est beau ça. Non, ça c'est très très beau aussi. Hein. C'est tous différents. Hein. C'est tous différents, ça c'est très très beau.
Est-ce
qu'on peut chanter maintenant?
Allez-y.
На земле Сталинграда поклялся солдат.
Ни шагу назад. Le soldat a prêté serment, pas un pas en arrière. Nous défendrons Сталинград. Les combattants ont tenu leur serment.
И по всей стране, от края и до края, нет города такого.
D'une extrémité à l'autre.
Из села. Куда бы ни пришла победа!
Il n'y a pas un seul village où la victoire ne soit pas venue.
Дорогая!
Ma chère!
Великого! Ma grande! Февраля!
Le grand est 2 février.
Тебе эту клятву советский народ. Медали в борьбе благородной. И каждый из нас победит и умрет, но Родина будет свободной. И каждый из нас победит и умрет, но Родина будет свободной.
Alors nous voilà avec le joyeux club des vétérans de Volgograd. Et c'est un après-midi de goûter, voilà, vous avez compris, on est avec ces gens âgés qui ont tous de la mémoire, des histoires à nous raconter et puis des chansons à nous chanter parce que c'est une petite association. Il y a un auditeur qui a dit mais vous n'avez pas du tout parlé des Allemands dans cette affaire de Stalingrad et c'est pas entièrement faux. Et je vous renvoie à un ouvrage particulièrement mais poignant qui s'appelle « Dernières lettres de Stalingrad ». Et il s'agit de c'est chez Buchet Chastel. Ça a été édité il y a pas mal d'années déjà. Et c'est absolument bouleversant. C'est 39 lettres que transportait le dernier avion qui s'est envolé de l'enfer de Stalingrad, de 39 militaires allemands. Et c'est absolument bouleversant, c'est poignant ce que ces gars écrivent à leur famille et à leurs femmes. Et comme on a le temps aujourd'hui, je vais vous lire une petite lettre, un extrait d'une des lettres. C'est extraordinaire. On a trouvé ce sac postal et on a trouvé ces lettres. Elles ont fait l'objet de mise en scène, de mise en musique également. Mais écoutez, c'est la 34e lettre. Et ce soldat écrit donc à son épouse qu'il vous voit. Et il lui dit ce qui va se passer maintenant. Personne ne le sait. Personnellement, je pense que c'est la fin. Dures paroles, mais que vous devez comprendre comme elles sont exprimées. Tout est changé depuis le jour où, devenu soldat, j'ai dû vous quitter. Depuis, nous vivons dans l'idée, nourrie de 1000 espoirs et de 1000 attentes, que certainement tout devrait s'arranger, et déjà un souci latent se dissimule derrière les paroles d'adieu qui doivent nous consoler de ces deux longs mois de bonheur entre mari et femme. Je me souviens encore d'une de tes lettres dans laquelle tu m'écris « Ce qu'il y a encore de mieux est de se plonger le visage dans les mains pour oublier. » À quoi je t'ai répondu que cela devait être nécessaire et que les nuits à l'Est sont plus dures et plus sombres qu'elles ne doivent l'être chez nous. Les nuits obscures de l'Est continuent et sont devenues beaucoup plus sombres encore, comme je l'avais craint. Au cours de telles nuits, on prête souvent une oreille attentive au sens profond de la vie, et accidentellement, on obtient une réponse. Entre nous n'existe que l'espace et le temps, et je suis sur le point de franchir le seuil qui nous sépare éternellement de notre petit monde à nous. Si jamais j'arrive un jour à sortir indemne de cette guerre, j'aurai compris ce que signifie la profonde et sincère communion d'esprit entre mari et femme. Et dès maintenant, alors que ces lignes vont partir, je l'ai déjà compris. Imaginez le gars qui est en train d'écrire ces lignes dans l'enfer de Stalingrad, sous les bombes, les tirs, les shtukas, les ordres de Staline qui tirent, et à la lumière tremblante d'une chandelle, peut-être dans un abri, cet homme a écrit ces mots, c'est bouleversant évidemment. Donc on est avec nos amis de ce petit club du troisième âge et qui sont très très contents d'avoir ce jour-là pour se goûter de vétérans des amis français.
C'est un club de l'amitié.
Club общения.
Club de rencontre.
Vétérans. Войны и труда.
De la guerre et du travail.
Эти люди все заслуженные. Они все воевали. Видели кровь, слышали бомбы, Сталинградской битвы.
Sont très méritantes parce qu'elles ont vu le sang, elles ont combattu, elles ont tout vu pendant la bataille de Stalingrad.
Защитники города героя Сталинграда.
Ce sont les défenseurs héros de la ville de Stalingrad.
Вот мы собрались.
Nous sommes réunis.
Возраст у нас 75, 70, 80.
Nous avons 70, 75, 80 ans pour cette
femme. Et общаемся.
Nous nous réunissons, nous restons en contact.
Ensemble, такое организуем.
Et nous organisons un petit ensemble comme ça.
Да, ensemble. Вот здесь вот у нас Ежова Анна Васильевна.
Анна Васильевна Ежова.
Так. Она даже как пишет стихи о том, как она пережила, переживала в Сталинградской
битве. Elle écrit des poèmes, elle écrit des vers sur ce qu'elle a vécu pendant la bataille de Stalingrad.
Вот у нас Елизавета Ивановна.
Елизавета Ивановна.
Участница Сталинградской битвы.
Qui a participé à la bataille de Stalingrad.
У нее была с собой маленькая сестренка.
Elle était avec sa petite sœur.
Не с кем было оставить ее дома.
Et elles étaient toutes les deux toutes seules, il n'y avait plus personne.
Cette сестренка была как дочь полка, называется.
Sa petite sœur, on l'appelle la fille du régiment.
Да. Et они вместе дошли от Сталинграда до Берлина.
Et ensemble, elles sont allées de Stalingrad à Berlin.
Et расписались в Рейхстаг.
Et elles ont inscrit leur nom sur le Reichstag.
Анна Николаевна Шаповалова.
Анна Николаевна Шаповалова.
Да. Ветераны.
Elles étaient à l'arrière. Elles forgeaient la victoire.
Работали на заводе.
Elles travaillaient à l'usine.
Делали мины, снаряды.
Elles faisaient des obus, des mines, et elles approvisionnaient le front.
Вооружением.
En armement.
Вот. Вот это вот женщины все. Voilà. У меня, пожалуйста, вот на них посмотрите.
Voilà, regardez-les.
Да, вот.
Так. Я начала Сталинградскую битву Сталинграда.
J'ai commencé la bataille de Stalingrad.
7-я гвардейская.
De la 17e garde de Chuikov. De la 62e armée de Chuikov.
У числа вот 9-го день победы.
Le 8. Le 9, c'est le jour de la victoire. Mais le 8.
А 8-го почему 9-й пишут? Потому что
мы. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est le 9?
3 часа ночи.
Parce que le 8.
Поставили.
Il était 3h du matin.
Et там. Горячий.
Et là, sur une pierre brûlante, il y avait des tuyaux enfumés, tout était fermé. Et nous avons écrit sur le Reichstag, nous sommes des combattants de la bataille de Stalingrad et on a mis nos noms. Malheureusement, ça n'y est plus là-bas maintenant. Parce qu'avant, c'était comme un musée.
Все же там очистили,
и все это сделали. Он увидел, что они все нетвоили.
Спасибо. Merci. Дорогие друзья, ну я просто вас, знаешь, как это вы, как мне уже сказали, что задерживать вас не очень. Я только скажу еще что. Все заводы отсюда были... Заводы все были эвакуированы на Урал. Эти заводы все перестроились на вооружение. Металлургические заводы.
Ont dû se réorganiser pour devenir des usines en situation de guerre, des usines d'armement.
За победу.
On nous a mise à l'usine pour faire des mines et on écrivait sur les boîtes pour la patrie.
Et все это так близко.
Tout ça nous est si proche.
Все так дорого.
Tout ça nous est si cher.
Et moi, je думаю, что мы еще будем жить хорошо.
Je pense qu'on va vivre, on va continuer à vivre.
За 70 лет уже. Еще жизнь продолжается.
Ça fait 70 ans et la vie continue.
А сейчас мы вам... Сейчас мы еще споем вам арию Гитлера. Это мы так...
Айру
Гитлера.
Лэр Дитлэр.
Гитлера. Сатира.
Сатира.
Сатира. Коллектив-то. Вы знаете, что такое... Это... Так.
Il y a un des pépères qui est très très drôle. Il s'est déguisé en Hitler. Il vient de faire Hitler. Mais il s'est mis des petites moustaches. Il a rabattu ses cheveux sur le devant. Mais c'est vachement bon. Hein.
Alors là, c'est la satire. Elle dit. C'est Hitler qui raconte ce qui va lui arriver comme malheur. Donc mes soldats vont être traînés dans la boue au fond des cours. Mon armée va être matée à Stalingrad, etc. C'est une satire comme ça avec projection dans le futur. Goebbels va me taper sur les doigts.
Год грядущий мне готовит, уж Геббельс нам не словословит, победы близкой не сулит и только жалобно скулит. Куда, куда вы быстро смылись, мои хваленые войска, все наши планы провалились. Нам жару создала Москва. Напрасно бредил я парадом, мечтал зазимовать в Москве. Мои полки лежат в земле под неприступным Сталинградом. Я скоро ноги протяну, уж Новый год на горизонте. Меня на среднем бьют по Дону и лупят на центральном фронте. Подули я, штыком пронзенный, подохнули я от топора, и вышвырнут мой труп зловонный метлою заднего двора. И вышвырнут мой труп зловонный метлой из заднего двора.
Русская песня.
Терпел русскую песню. Les она для него была снарядом. У них такая получалась паника, когда они слышали русскую панique, песню.
Quand ils entendaient cette chanson russe. Parce que dans cette chanson, il est dit « Tu as battu l'ennemi ». Chanson russe, tu as frappé l'ennemi.
Mémoire, histoire, dans ce club de vétérans à Volgograd, ex-Stalingrad, et au même, au moment où ces chansons étaient chantées, au cours de cette bagarre, cette bataille, cet enfer de Stalingrad, eh bien, un autre soldat allemand, parmi ces dernières lettres de Stalingrad, ces 39 lettres, eh bien, il y a celle d'un soldat allemand qui écrit lui aussi à sa bien-aimée et qui lui raconte ceci. Il dit « Mes mains sont foutues et c'est là depuis le début de décembre. À la gauche manque le petit doigt, mais ce qui est pire, c'est qu'à la main droite, les trois doigts du milieu sont gelés. Je ne puis tenir mon quart qu'entre le pouce et le petit doigt. Je me sens presque entièrement sans défense. C'est lorsqu'on a perdu ses doigts qu'on se rend compte combien ils pouvaient vous être utiles, même pour effectuer les plus minimes obligations. » Et plus loin, le même soldat continue et il évoque un de ses amis qui s'appelle Kurt Hanke. Il dit à sa femme, il me semble que tu l'as connu au collège en 37. Eh bien, Kurt Hanke a joué, voilà 8 jours, la sonate Appassionata sur un piano à queue dans une rue de Stalingrad. C'était un spectacle extraordinaire. La maison avait été dynamitée, mais sans doute par pitié, les gars en avaient retiré l'instrument et déposé dans la rue, et chaque deuxième classe qui passait en martelait les touches. Je te le demande, où peut-on encore trouver des pianos dans une rue ? Dommage que je ne sois pas écrivain pour te dépeindre la centaine de troufions, la capote ficelée autour du corps, des couvertures sur la tête, la canonnade grondait au-dessus de nous, mais aucun d'eux n'y prêtait attention. Ils écoutaient Beethoven dans Stalingrad, même s'ils n'en comprenaient pas la musique. Maintenant que tu connais l'entière vérité, cela va-t-il mieux ? Et la lettre finit sur ce point d'interrogation. On ne sait pas évidemment si ce soldat avec ses doigts en moins a survécu à cet enfer de Stalingrad. En tout cas, nos amis qui sont là à Volgograd, eh bien, eux ont survécu et évidemment, ont envie de nous chanter ce qui est l'hymne de cette bataille, de cette victoire, l'hymne du Mamaev Kourgan.
C'est une chanson sur le silence de Mamaev Kourgan, donc vous chantez plus doucement parce que vous me criez dans les oreilles. C'est une chanson sur le silence, il faut chanter très très doucement.
Вот уж вечер благодарский настает, а старушка не уходит, сына ждет. Мирный берег, тихо плещется волна, разговаривает с матерью она. Мирный берег,
de la bataille de Stalingrad, des sons authentiques de l'époque qui ont été enregistrés à l'époque, et derrière vous entendez un tango. Qu'est-ce que c'est que ce tango? Qu'est-ce que ce tango vient faire là? Eh bien, voilà une explication. Ce tango, cette musique de tango faisait partie de la propagande. C'était un moyen de propagande. Explication d'Anthony Beevor, l'historien britannique, auteur de Stalingrad.
Il faut préciser que ces tactiques de propagande sonore venaient vers la fin de la bataille, quand l'armée allemande a été encerclée par les soviétiques. Et bien sûr, les autorités soviétiques voulaient détruire le moral des troupes allemandes, et donc ils ont utilisé ces ces haut-parleurs avec une mélange de musique. Ils ont utilisé le tango souvent parce que c'était tellement macabre, ça impliquait la mort, etc. Et aussi des souvenirs de la vie civile. C'était ça où ils étaient très habiles. Par exemple, le plus efficace disait « Papa is tot ». Papa est mort, et ça montrait un garçon allemand en train de pleurer en regardant le corps d'un soldat allemand. Et celui-ci était le plus efficace, parce que c'était écrit par Weinhardt, avec un poème par Weinhardt, qui était un communiste allemand. Mais ils utilisaient des autres moyens. Par exemple, ils utilisaient une mélange de sonores et des mortiers, par exemple. Ils avaient envoyé quelques obus, et après un peu de musique, et c'était presque comme la grande symphonie de 1812 de Tchaïkovski, ou quelque chose comme ça. Ils étaient très originaux d'utiliser ce moyen de faire la guerre.
I'm Eric Sean at the United Nations, where in just hours from now, the British will introduce a second resolution co-sponsored by the U.S. and Spain. It's number 18 and could be Saddam's last chance.
You know, war is my last choice.
Voilà, la propagande a changé, mais on utilise toujours la musique, l'effet très émotionnel. À 60 ans de différence, mais l'usage de ces sonorisations de la steppe, on imagine ce que ça pouvait être. Il y avait des véhicules comme ça qui se déplaçaient en faisant équipés de haut-parleurs très 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 puissants et qui étaient destinés évidemment à démoraliser l'ennemi par le son et par la musique. Et ces mêmes moyens ont été utilisés dans la guerre du Vietnam. Je me souviens d'un reportage qu'on avait fait là-bas, où sur la ligne de démarcation entre le nord et le sud, qui était marquée par un fleuve dont j'ai oublié à l'instant le nom, il y avait des haut-parleurs géants, mais gigantesques, qui diffusaient de la musique et de la propagande pour démoraliser les troupes qui faisaient face. Et je me souviens de ce détail, le son était tellement violent, tellement fort, que les canards mouraient, et qu'il a fallu des années après la guerre pour que les canards reviennent dans cette rivière. C'était un ami qui nous avait raconté cette anecdote, qui était lui-même un militaire impliqué sur le front. On a, au cours de cette série, utilisé des archives sonores. Dans les archives sonores, des commentaires, des films d'actualité français de l'époque, tels que ils étaient diffusés dans les salles de cinéma en France, la France de Vichy. Et voilà un document qui est assez rare et qui dit bien ce qu'était cette époque. Il date de 1942, exactement le 24. Décembre 1942.
Au Vélodrome d'hiver, 30 000 Parisiens de toute classe sociale assistent à une manifestation monstre affirmant leur volonté de faire bloc contre le bolchevisme et de recréer l'ordre français. Se succède à la tribune Joseph Darnan.
Toute la France, des troupes qui sont prêtes à se battre, nous préférons quant à nous mourir que de subir le triomphe d'Israël.
Jean-Hérold Bacchi.
Il n'y a pas de solution boiteuse. Français et Françaises, on vous demande d'être assez courageux, assez décidés, assez français pour tout dire, pour prendre parti. Il faut être avec les légionnaires du front de l'Est contre les assassins du front de France. Ou bien alors, il faut entrer et le dire, entrer dans le camp du terrorisme contre la patrie. Mais il n'est pas possible d'être hésitant entre les deux. Ou la France sera exsangue sans libération, ou elle sera libérée des tueurs moscovites.
Marcel Déa.
Il faudra que dans les deux zones, les gens qui depuis 3 ans se battent au premier rang ne soient pas simplement des cibles offertes aux assassins. Il n'est pas possible le jour où les Anglo-Américains essaieront de mettre le pied sur le continent Il n'est pas possible que ne se dresse pas devant eux une nation compacte, rassemblée, armée.
Philippe Henriot.
Pour vous exciter au meurtre, à la vengeance, à la haine entre Français, ce sont les fourriers de la guerre civile. Vous n'avez donc pas compris que cette radio anglaise en français, c'est une entreprise montée par des fripouilles à l'usage des imbéciles.
Ces images se passent de commentaires.
Alors voilà ce qu'on pouvait subir et entendre dans les salles de cinéma. Et un auditeur hier, je crois, a précisé qu'il se souvient bien de ces, il se souvenait bien de ces séances de cinéma où il était pour pas que les, pour éviter que les spectateurs hurlent et ne sifflent dans la salle, eh bien on allumait la lumière de façon à ce que on puisse éventuellement repérer les perturbateurs de ces actualités. Eh bien voilà un document complémentaire adressé par un auditeur aujourd'hui.
Allô, allô. La direction rappelle aux spectateurs qu'ils doivent s'abstenir de manifester de quelque manière que ce soit pendant la projection des actualités. Des mesures très sévères seront prises contre tout spectateur dont l'attitude constituerait même un commencement de manifestation.
Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах. Тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь. И у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз. Как я хочу к ним прижаться теперь губами. Темная ночь разделяет любимая нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится. И поэтому знаю, со мной ничего не случится.
Alors un phono de l'époque, vous entendez, et un document tout à fait extraordinaire qui date de 1942, le 24 décembre 1942, il est contemporain du document qu'on vous a fait entendre sur cette propagande pro-nazi. Là, c'est un document c'est le premier multiplex radiophonique, c'est-à-dire que pour ce soir de Noël, l'armée allemande fait chanter des soldats qui sont en Laponie, qui sont sur les côtes de la Manche, qui sont à Catane, qui sont en Afrique, qui sont absolument partout dans le monde, et c'est une émotion extraordinaire. C'est bidas, c'est soldats, c'est qui chantent tous ensemble. Écoutez.
Achtung, ich rufe noch einmal Stalingrad.
Hier ist Stalingrad.
Achtung, noch einmal die Lapplandfront. Achtung, die Kanalküste.
Ihr Sicherungsverbände der Kriegsmarine am Kanal.
Achtung, die U-Boot fahre im Atlantik.
Jetzt ist ein Unterseebootsstützpunkt am Atlantik.
Achtung, Catania. Hier ist die Mittelmeerfront und Afrika. Fernbrunnen und Brücken am Schwarzmeer. Schließen sich nun alle Stationen an. Jetzt singen sie schon am Eismeer und in Finnland. Und jetzt singen sie im Kampfraum in Reschef. Und jetzt schalten wir dazu alle die anderen Stationen. Leningrad, Stalingrad. Und jetzt kommt dazu Frankreich. Kommt dazu Catania und singt Afrika. Und nun singt alle mit uns gemeinsam in dieser Minute.
На фото он одних со мною лет. На леса облака он смотрит свысока. Любимый сын гвардейского полка. Пусть день победы дарит радость людям всем. Пускай припомнит дед военные года. С утра я счастлива сегодня вот отец. Что бесконечно моим дедушке года. Пусть день
Merci à tous, merci aux élèves du lycée numéro 5 dans le quartier de la transfusion sanguine à Volgograd, un quartier qui s'appelle comme ça, et c'est les enfants, les élèves de cette école que vous entendez. Merci à Aude Merlin, je signale la sortie d'un livre par le comité Tchétchénie qui s'intitule « Tchétchénie, 10 clés pour comprendre » avec une préface de Sophie Chiab, notre consoeur du Monde, c'est aux éditions de La Découverte. Là, c'est vraiment le manuel pour comprendre tout ce qui se passe en Tchétchénie. On aura l'occasion d'en parler. Technique aujourd'hui, Henri Bérec et Sébastien Royer, assistant Anne de Giaferi. Le répondeur, c'est Christophe Imbert. Le numéro 056 40 37 37, c'est le numéro du répondeur. Assistant de réalisation, Koy Nguyen et Antoine Chao, qui a réalisé cette émission modeste et géniale. Réclame.